Merci beaucoup, Benjamin Dolo. Et pour précision, à Bordeaux, il fait très beau, comme toujours.
Je n'en doute pas.
Le journal régional revient demain à 18h30. Les 18-19 en Nouvelle-Aquitaine continuent avec mon invité ce soir, Dieudonné Dard. Je vous reçois pour parler des raisons pour lesquelles vous manifestez chaque samedi, notamment, pas forcément tous les samedis, mais quelques-uns contre le pass sanitaire. Vous avez écouté attentivement ce journal. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu votre attention dans ce que vous avez entendu, un sujet plus particulièrement ?
En fait, ce qui retient mon attention, c'est le décalage avec ce qu'on est en train de vivre. Je vous parlais tout à l'heure de Mathias Desmet, ce professeur en psychologie clinique, qui nous dit qu'il comprend que ses collègues psychologues ne comprennent pas ce qui se passe, parce que lui-même, il lui a fallu 6 mois, alors qu'il donnait des cours sur les régimes totalitaires, il lui a fallu 6 mois pour réaliser que ce que nous étions en train de vivre présentait toutes les caractéristiques de la montée en puissance d'un régime totalitaire, c'est-à-dire de l'isolement social. Je vous fais pas de dessin comment l'isolement social s'est renforcé depuis un an et demi. De la perte de sens. Il fait pour ça référence à un livre qui s'appelle « Les Bullshit Jobs » de David Graeber, un auteur universitaire américain qui est malheureusement décédé récemment, qui montrait combien il y a de plus en plus de métiers dans lesquels les gens font un travail juste alimentaire qui n'a pas tellement de sens dans leur vie. Donc, perte de sens. Ça, c'est de plus en plus souvent une perte de sens. Et puis, il utilise aussi un adjectif en anglais, free-floating, pour deux expressions, deux caractéristiques de ces régimes. C'est free-floating anxiety, une anxiété flottante, sans objet. On n'arrive pas à identifier d'où ça peut venir, cette anxiété, mais on la vit, elle est très douloureuse, elle peut être très douloureuse. Et de la même manière, il parle de free-floating miscontent, donc c'est une insatisfaction, pareil, sans qu'on arrive à voir d'où ça vient, et on se retrouve en position passive à souffrir de ça. Et à ce moment-là, si vous tombez sur quelqu'un qui vous dit, voilà, j'ai identifié une menace, et j'ai une solution. À ce moment-là, d'un coup, votre vie retrouve un sens, vous retrouvez une direction dans laquelle orienter votre énergie, et dès que vous croisez quelqu'un qui vous dit « ben non, en fait, cette histoire, elle est fausse », le cerveau, en fait, se met en protection et il empêche l'accès au raisonnement pour se protéger du risque de retrouver l'angoisse qu'on avait avant qu'on nous donne cette solution préfabriquée. Et donc, ayant exercé le métier de pilote de ligne pendant des décennies, je peux vous dire que être attentif à nos erreurs, nos erreurs de représentation notamment, quand on est engagé dans une perception de la réalité et que on peut se dire ma vie est en jeu si j'arrive pas à sortir de cette erreur de représentation. Du coup, on reste vigilant aux erreurs de représentation qu'on pourrait avoir. Et il me semble que là, nous sommes dans une erreur de représentation organisée pour nous amener à accepter des choses qui, en temps normal, auraient été complètement inacceptables. Comme, par exemple, je vous le redis, d'accepter de se faire injecter un produit expérimental
Je vous posais une question, savoir s'il y avait quelque chose qui vous faisait réagir dans le journal. Mais on n'a pas, on n'a pas parlé de Covid.
Mais c'est ça, pour moi, c'est autant, à chaque fois que je mets la radio, par exemple France Inter, avant chaque journal, j'entends un rappel me demandant, m'encourageant à me faire vacciner si c'est pas encore fait. Autant là, quand j'entends les sujets d'actualité qui sont évoqués pour la politique, pour la vie quotidienne, etc., j'ai l'impression que il y a une sorte d'hypnose collective.
Et alors, ne pas parler de Covid, ça vous dérange? Si on en avait parlé, ça vous aurait dérangé aussi.
Mais
peut-être.
Non, au contraire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est
justement,
c'est
on a une actualité différente qui a été traitée dans le journal. On peut dire aussi qu'on parle d'autre chose.
Ce qui m'intéresse, c'est qu'on réintroduise des espaces de dialogue pour ce qui nous importe fondamentalement. Aujourd'hui, je voudrais prendre le train pour aller rejoindre ma mère à Paris, il faudrait que j'accepte de me faire planter un coton-tige dans le nez.
Alors là, on sort de la question que je vous posais de base, qui était si quelque chose vous faisait réagir dans le journal. Alors j'entends, même si dans ce journal, nous n'avons pas évoqué la Covid, c'était une façon différente de traiter l'actualité, comme on le fait souvent sur notre antenne. Alors justement, vous êtes dans l'ambiance de ces manifestations. On peut craindre qu'il y ait d'un peu d'insurrection, un peu de violence. Est-ce que c'est calme? Est-ce que c'est bon enfant, justement, ces manifestations? Vous qui y êtes souvent.
Alors, En m'invitant, vous saviez que j'étais engagé dans une association pour la communication non violente. Et aussi un mouvement qui s'inscrit dans la justice restaurative, qui qui propose les cercles restauratifs pour prendre soin des tensions, des désaccords et des conflits dans les collectivités. Et donc moi, mes sources d'inspiration pour retrouver du pouvoir face à toutes ces formes de dérives du pouvoir, c'est Mandela, Gandhi, Martin Luther King. Donc je crois profondément à la force de ces moyens-là.
Et je voulais retrouver justement ces sources d'inspiration dans les manifestations.
Tout à fait. Vous avez par exemple le collectif Réinfo Covid qui a été initié par Louis Fouché et pour lequel ils invitent les gens à justement ne pas brandir de pancartes de Réinfo Covid, venir en leur nom s'ils choisissent de le faire, ou au contraire de ne pas aller manifester puisque c'est une manière d'alimenter les logiques de rapport de force primitifs, alors qu'il y a des tas d'alternatives, et c'est peut-être le clin d'œil positif
auquel on
pourrait arriver. Il y a la map et plein d'autres alternatives qui vont être réunies dans un film à financement participatif dans lequel Louis Fouché est engagé, qui s'appelle Tous résistants dans l'âme, qui demandait plus de 90 000 euros sur plusieurs semaines et qui a réussi à recueillir la somme et même à la dépasser en une semaine.
Est-ce qu'au final, ces manifestations, c'est pas aussi le lieu de mécontentement plus large qui permettent justement d'exprimer un mécontentement qui va au-delà du pass sanitaire, justement? On avait eu le mouvement des Gilets jaunes instauré ça.
On retrouve, je vous dis, les conditions sur lesquelles nous alertait Mathias Desmet, ce malaise latent, cette anxiété flottante. Donc c'est pas réglé. Moi-même, je veux dire, j'avais un malaise au bout de 30 ans à parcourir le monde en avion de ligne, de constater les dégâts engendrés par l'être humain. Quand on imagine que la trace laissée par l'humanité à une échelle géologique, ça sera une extinction massive du vivant sur la planète. Quand on prend conscience de ça, on se dit, dis donc, on n'est pas à la hauteur dans les mesures qu'on prend. Et je pense que un des puissants leviers, c'est de revenir à une confiance dans l'être humain et dans sa nature spirituelle bien plus grande que juste réduite à une machine biologique incomplète qu'il faudrait venir compléter avec des injections expérimentales.
Tout le monde parle de sortir grandi de cette crise du Covid. Oui. Est-ce que vous y croyez aujourd'hui?
Complètement. D'ailleurs, vous avez un chercheur au CNRS spécialisé en physique fondamentale du style physique quantique, etc., qui s'appelle Philippe Guillemant, qui vient de sortir un livre qui s'appelle le virage, grand virage de l'humanité, dans lequel il parle justement de ce carrefour, de ce moment crucial où l'humanité peut choisir soit de poursuivre dans la direction matérialiste dans laquelle on est engagé depuis des centaines d'années, soit de reconnaître que nous avons des dimensions tellement supérieure à juste une machine biologique, quoi. Et pour ça, il y a des valeurs essentielles, comme par exemple de reconnaître que chacun est souverain dans ce qu'il va choisir de se mettre dans son corps, de comment il prend soin de sa santé. Vous avez le procès de Nuremberg qui a conduit à justement rappeler ça après les excès qui ont été faits pendant la Deuxième Guerre mondiale par des médecins nazis dans des expérimentations sur des êtres humains.
Donc vous êtes confiant en l'avenir, on va se relever tous de cette crise, en espérant se comprendre plus.
Ça fait vraiment plaisir, je vous dis, d'écouter ce chercheur au CNRS, Philippe Guillemant, pour qui ce futur foutu, ce futur, il l'appelle le futur, est en train de prononcer son chant du cygne, quoi. C'est la fin. On a une forme de caricature de ça avec le régime chinois, avec le crédit social où vous avez autant de caméras de surveillance dans la rue que vous avez de personnes. Voilà, une société de contrôle, de surveillance et de contrôle, surveiller et punir. Voilà, c'était l'ancienne logique. Là, je pense qu'on va avoir une occasion de rappeler que dans les valeurs fondamentales de l'être humain, il y a de faire confiance dans notre nature et dans notre dimension divine.
Merci beaucoup Dieudonné Dard d'avoir été notre invité tout au long de ce 18-19 en Nouvelle-Aquitaine.
Le 18-19, regard politique.
On vous retrouve, Laurent Rossini, pour la chronique politique. Alors, de quoi est-ce qu'on parle ce soir, Laurent ?
Bonsoir, Blandine. Alors, ça y est.